La vie avant tout, une chronique d'écologie intégrale en compagnie de Dominique Vachald et de ses invités. Bonjour à vous tous, chers auditeurs, heureux de nous retrouver pour notre émission La vie avant tout. Bonjour Dominique.
Bonjour mon père et bonjour à chaque auditeur.
Voilà, nous avons la joie d'avoir avec nous aujourd'hui Adeline dans notre émission. Le thème de notre émission, eh bien, nous sommes toujours dans le carême, donc carême réchauffement climatique, mais aussi le carême nous invite à la rencontre avec les autres. Donc c'est le thème qui va nous habiter pendant cette émission et puis peut-être pendant certaines autres émissions sur ce thème de l'altruisme. Bienvenue à Adeline. Bonjour Adeline.
Bonjour Père François-Dominique. Bonjour Dominique. Et puis bonjour à tous.
Merci, merci mon père. Donc on a eu le plaisir de recevoir Étienne Mélone qui a écrit son livre
Le tour du monde de la foi. Et donc vous pouvez le suivre sur letourdumondedelafoi.com et son livre sortira fin février. Et pour faire le lien entre l'intervention de Adeline, qui connaît d'ailleurs très bien Étienne depuis très longtemps, donc l'idée c'est que son livre, il l'a écrit pour partager, pour avoir un temps de partage avec nous tous. Et donc je rappelle que les bénéfices qui seront tirés du livre seront donnés au couvent Saint-Antoine, et donc c'est très bien. Et donc l'idée de partager, l'idée de vivre une expérience autour du monde et de revenir et de pouvoir partager avec nous, c'est une des motivations qui a conduit Étienne à faire ce tour du monde de la foi. Et donc l'altruisme aussi, quel beau thème, et merci à Adeline, c'est elle qui l'a proposé, et merci beaucoup, puisque l'altruisme, bien évidemment, est au cœur de notre carême. Et en période de carême, penser aux autres et se mettre au service des autres, c'est peut-être ce qui pourra nous rendre le plus heureux dans notre quotidien. Et c'est ce qui pourra permettre le plus à Jésus-Christ d'être fier de nous, content de nous, quand il verra ce qu'on est capable de faire les uns pour les autres, en son nom, par son nom et pour son nom. Donc Adeline, sur l'altruisme, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu que veut dire ce joli mot d'altruisme ?
Ah oui, bien sûr, l'altruisme, c'est vrai qu'on peut donner beaucoup, beaucoup de définitions à l'altruisme. Si on le cherche, ce mot dans le dictionnaire, il y a beaucoup de définitions, beaucoup de philosophes qui se sont penchés sur la définition. Mais bon, il y a un point commun, c'est que vraiment, c'est une attitude constante et durable, je dirais, pour s'intéresser à autrui, mais d'une manière vraiment aimante, hein, voilà, et dans un échange permanent et presque, voilà, c'est en fait l'altruisme. Ce qui est bien avec l'altruisme, c'est que ce qui différencie en fait l'altruisme de la bonté, de la fraternité, de la générosité, c'est qu'il y a une notion de solidarité qui est très importante et une notion durable surtout. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence avec toutes les autres qualités humaines que je viens de citer, telles que la bonté, telles que la générosité, telles que la fraternité. Voilà. Il y a vraiment une notion de solidarité, un concept de solidarité qui entoure l'altruisme.
Alors c'est très bien de rajouter le mot durable, hein, puisque d'ailleurs oui. je l'ai bien noté, puisque notre émission est basée justement sur l'écologie intégrale et Laudato aussi. Je rappelle aussi l'approche de l'Église verte, et c'est vrai que dans Laudato aussi, la partie humaine est très importante, donc s'occuper de la nature et s'occuper des uns des autres, et surtout prendre soin de la nature, prendre soin des uns des autres. Et donc comportement durable comme définition d'altruisme, ça nous va très très bien. Comportement
super.
Tourné vers les autres et durable. Et donc je crois aussi qu'Adeline, tu avais un beau témoignage, puisqu'on prépare nos émissions, Tu avais un beau témoignage d'altruisme de ton cher papa.
Ah oui, ça, j'y reviendrai peut-être sans doute dans une autre émission. Oui, mon père, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on a fait une émission sur la souffrance, j'avais déjà cité papa qui avait une grande souffrance parce qu'il était, il bégayait. Mon père bégayait, mais c'était vraiment un handicap très, très, très fort. Hein, c'était très, très important. Et donc, il avait trouvé un moyen de communiquer avec les personnes. Bon, c'est vrai qu'il était d'une nature très généreuse, voilà. Mais il avait mis en fait cette souffrance au service des autres, et donc il était devenu particulièrement altruiste. Particulièrement altruiste, il avait créé en fait au village un mode de fonctionnement. C'était très, je dirais. Très moderne pour l'époque, hein, puisqu'il avait créé un très très grand atelier, très très grand atelier. Bon, il était très doué aussi manuellement, hein, un très très grand atelier où tous les gens du village, mais même des alentours, hein, se retrouvaient. Alors, il avait une passion aussi pour les outils, c'est-à-dire que dès qu'il économisait un petit peu, il achetait un outil. Alors, mais il mettait ça à la disposition de tout le monde, et non seulement, je dirais, tous les outils, mais aussi son savoir-faire. Et chez nous, c'était un va-et-vient constant de personnes, même de personnes d'alentour, hein, des autres villages. On venait pour prendre un outil, voilà, ils empruntaient, ils venaient, ils récupéraient. Et mon père, il était dans un don perpétuel, mais perpétuel. Il avait créé comme ça au village vraiment un mode de fonctionnement, et ça resserrait vraiment les liens. Ça peut-être qu'on était vraiment, on était une communauté au sens vrai du terme. Voilà. Et c'était un point vraiment de rencontre chez moi. Bon, je vous avoue que quelquefois, maman craquait parce que tout le monde le fout. Mais c'était vraiment un point de rencontre et c'était très, très vivant. Mais c'était vraiment la solidarité, l'altruisme qui animait cette façon de faire, voilà, que je retrouve un peu encore maintenant, hein, puisque je suis au village depuis 1 an et demi, mais enfin, bientôt 2 ans, que je retrouve, c'est très curieux. En plus, l'atelier de papa, mon papa est décédé maintenant depuis une dizaine d'années, mais l'atelier est toujours là et il m'arrive d'ouvrir l'atelier de papa pour qu'on vienne se servir encore des choses qu'il avait mis à disposition. Alors, c'était extraordinaire parce qu'il ne faisait pas que mettre des outils à la disposition des autres. Il achetait plein de choses. Dès qu'il avait 3 sous de côté, il achetait plein de choses. Il achetait même des fours, il achetait des petites cuisinières, il achetait des chaises. Et si vous voulez, quand quelqu'un était en panne au village, eh bien, les gens arrivaient et se servaient. C'était extraordinaire. Voilà, c'était vraiment un mode de fonctionnement. Mais je vous dirai dans une prochaine émission, enfin, quand il est décédé, bien évidemment, ça a tellement fait un vide, hein, parce que ce mode de fonctionnement, il était à la tête de ça. Et je me souviens, entre autres, d'une lettre que nous avait écrite à une personne qui avait été très, très affectée, très, très affectée par son départ. Et entre autres, je crois, une phrase qui, moi, m'avait interpellée, il disait, il avait rendu à mon père et à moi-même aux alentours vraiment de très nombreux services. Il faisait partie de ces personnes qui sont généreuses et de manière naturelle et qui prennent plaisir à aider les autres et surtout qui développent des valeurs communautaires qui essentielles. Voilà. Et moi, je ne le voyais pas comme ça, en fait. Moi, je voyais chez mon père un dépassement dans cet altruisme, un dépassement de lui-même, un dépassement, je dirais, de son handicap. Mais je ne voyais pas qu'il participait à cet esprit communautaire. En fait, c'était vrai, c'était ça. Et donc, vous voyez, à partir d'un dépassement, à partir du fait qu'on puisse être altruiste, eh bien, on peut arriver à un mode de fonctionnement qui est autre. Et qui peut resserrer vraiment les liens de toute communauté. Et on sait que, je dirais, le schéma communautaire, on sait à quel point c'est important pour que les sociétés puissent vraiment s'entraider et puis progresser. C'est un schéma. Le schéma communautaire, c'est un schéma qui a fait vraiment ses preuves et qui continue à le faire dans les civilisations les plus, dans le rural, dans les civilisations les plus pauvres, chez les peuples les plus pauvres. Voilà. Et c'est vraiment le sens communautaire, c'est très très important. Et ça part toujours de l'altruisme, bien évidemment, dans cet échange permanent, voilà, d'entraide mutuelle. Et puis, vous savez encore, c'est une expression qui dit "una mano lava l'altra". Bon, si je traduis, ça veut rien dire. C'est-à-dire une main lave l'autre. Ça veut dire qu'on est, vous commencez par faire un don à quelqu'un, puis cette personne vous le rend, et on est en permanence dans un échange, dans une réciprocité comme ça, et ça crée vraiment un lien très fort, ça resserre les populations.
Oui, et puis, encore, hein, pour faire le lien avec Laudato aussi, et cette notion d'outils partagés, de se prêter, de ce qu'on voyait, hein, puisque moi-même, enfant, à la ferme, c'est ce que je voyais. C'est ce que je voyais, on achetait certains équipements, et il n'y avait qu'une seule ferme qui avait cet équipement-là, et on se regroupait, et on travaillait, par exemple, avec la moissonneuse-batteuse qui était achetée pour le village. Et à chaque fois qu'on utilisait la moissonneuse-batteuse, ben, ceux des fermes voisines venaient dans le champ, on utilisait la moissonneuse pour son champ. La semaine d'après, c'était pour l'autre, mais il n'y avait qu'un seul outil pour tout le monde, et ça créait du partage, de la solidarité. Aujourd'hui, dans tous les référentiels développement durable, on retrouve cette notion de partager les outils, de se les prêter. Donc, certains vont même jusqu'à des voitures communes. Donc, une seule voiture, des fois, on utilise une voiture pour aller chercher le pain une fois par jour. Eh ben, certains mettent la voiture en commun ou même achètent le pain en commun, et du coup, on crée du partage en limitant le nombre d'équipements dont on a besoin, puisque c'est vrai que moi, je pense, avec mon voisin, pour tailler la haie, on taille la haie deux fois par an. Ben, on a un seul taille-haie pour trois voisins et on l'utilise une journée chacun, donc ça fait 6 jours par an. Donc pourquoi chacun avoir son taille-haie, puisqu'on va l'utiliser, allez, même disons 2 jours chacun, ça fait 12 jours par an. Sur 365, 90% du temps, elle n'est pas utilisée. Et donc, c'est effectivement, et comme dans toute action que l'on mène, et je pense aussi que c'était le cas pour ton papa, c'était qu'à la fois, bien évidemment, on prête aux autres, et ça arrange tout le monde, mais du coup, mais ça aussi, ça donne l'exemple. Et ça, un, on prête, et deux, on montre l'exemple de prêter, et de dire, tu vois, moi, je te prête, et l'autre, il dira, tiens, si lui, il me prête, moi aussi, je prêterai. Et c'est pour ça que c'est important, nous chrétiens, impulsé par l'exemple de Jésus-Christ, eh ben qu'on montre l'exemple. Et à la fois, bien évidemment, souvent ceux autour de nous vont profiter de notre bienveillance, de nos gestes, de nos prêts, de nos dons, et parce qu'on est guidé par Jésus-Christ. Mais en même temps, en leur prêtant, on leur donne un exemple. Et je dis souvent à mon épouse, quand je laisse passer une voiture à un carrefour ou une intersection, je laisse passer la voiture et mon épouse me dit « Mais pourquoi tu fais ça ? On est en retard quand même. » Je dis « Bah oui, mais moi, je viens de le faire à lui et tu vas voir que dans 5 minutes, il y a quelqu'un qui va nous le faire à nous. Et on va le temps qu'on a fait gagner à lui, quelqu'un va nous le faire gagner à nous. Et lui, il va faire pareil puisque nous, on vient de lui faire. » Et donc, à la fin, on est gagnant. On est toujours gagnant à se mettre au service des uns des autres. Et en plus, en termes de lecture, développement durable, c'est éco-responsable de se prêter et d'acheter les équipements électriques et électroniques, juste ce dont on a besoin, mais pas besoin individuellement, besoin collectivement. Et cette nouvelle façon de réfléchir, quel est notre besoin collectif? Je pense que c'est la société de demain. On réfléchira. Donc moi, bien évidemment, j'essaie d'appliquer ce que je dis, mais moi, j'ai plus de voiture. Donc on n'a qu'une seule voiture à la maison. Mon épouse travaille, moi aussi. Je suis venu au couvent en train. C'est pas forcément simple. Donc, il faut après... là, c'est le père qui va m'emmener au train. C'est mon épouse qui va venir me chercher. Mais j'assume. Et ça crée du lien, ça crée du partage, ça crée des temps d'échange. Et effectivement, et quand j'ai besoin... Et je trouve que ça permet aussi d'avoir moins d'équipement matériel. Ça rend très humble. Parce que bon...
Ça fait rentrer dans une sobriété heureuse, en fait.
Et complètement. Et je me retrouve, moi, à 54 ans, qui ai travaillé toute ma vie, à aller taper à la porte du voisin pour dire « Bonjour, excuse-moi, est-ce que tu pourrais me prêter ta voiture pour faire 4 km ?» Et ça nous met dans une situation d'humilité, de « voilà, mais toi, t'as un petit peu... » Alors souvent, on me dit « Mais tu peux pas t'acheter une voiture ?» Je dis « Si, je peux en acheter une, grâce à Dieu, même plusieurs, mais c'est pas là le sujet. C'est que si j'achète ma voiture, dans la rue, on a 15 voitures qui sont utilisées, chacune, 20 minutes par jour, et on en a 15. J'essaie petit à petit. Alors, bien évidemment, c'est jamais facile d'être le premier, mais j'essaie d'instaurer ça dans mon quartier en disant, en plus dans mon quartier, j'ai beaucoup de retraités qui n'utilisent pas beaucoup la voiture. Et on a des voitures qui sont là 80% du temps garées en bas de chez nous.
C'est pour ça, pardon Dominique, c'est pour ça en fait que ce temps de carême, que je trouve moi un temps particulièrement béni, et que l'Église nous offre, c'est vraiment un temps pour vraiment revenir sur nous-mêmes, pour faire le point sur toutes ces choses, sur notre vie, pour nous interroger sur le sens de l'existence. Et même s'il y a différentes de façons de l'aborder, on peut, dans ce temps de carême, penser à ce que tu viens de dire, à la planète, et puis penser aux autres. C'est vraiment un temps, je dirais, nécessaire, nécessaire.
Et pour aller dans ton sens, Adeline, c'est aussi l'intention que nous donne notre pape François pour le carême 2024, désir de se poser et de chercher à remettre en cause certaines attitudes et comportements qu'on a, qui sont des fois justement pas Laudato si, et de se poser et de se dire, est-ce que je pourrais faire autrement? Et il dit, chercher et oser. Donc cherchons dans notre vie ce qu'on pourrait changer et osons le changer pendant ce carême et essayons de prendre de nouvelles habitudes qui seront plus orientés vers les autres et vers l'écologie intégrale.
Et oui, donc c'est paradoxal. Donc c'est un temps d'introspection, je dirais. Mais pendant ce temps, ce temps où on pense à nous, où on se pose, il faut se mettre à l'écoute de l'autre, je crois. Il faut mettre l'autre, je crois, au cœur de nos actions, en se retirant, mais en faisant entrer notre prochain, et en lui faisant de la place, en prenant du recul pour bien voir ce qui se passe autour de nous, parce que très souvent, on a beaucoup de choses qui se passent à nos pieds, mais on est incapable de voir ça, parce que tant on est aveuglé par nos égoïsmes. Et donc, il faut vraiment se mettre en retrait pour mieux agir, et agir surtout de manière aimante. C'est vraiment paradoxal, comment on peut faire pour à la fois se retirer et puis perdre la place à autrui. Je crois que c'est vraiment la période propice pour s'oublier. Vraiment, il faut s'oublier. Et en s'oubliant, je crois qu'on arrive naturellement vers l'autre. Et c'est vraiment toute la difficulté. C'est vraiment toute la difficulté. Je reviens toujours à la Bible. La Bible, je retiens, moi, des paroles du Christ qu'il restera de nous, la façon dont on aura aimé. Je trouve que c'est vraiment une très très belle image. Puis je trouve aussi l'image de l'arbre qui porte ses fruits, une très belle image. Je crois qu'on reconnaît l'arbre aux fruits qu'il porte. Et donc là, il y a vraiment toute une symbolique, c'est-à-dire sa fécondité. Et donc la fécondité, c'est l'abondance, c'est l'aptitude à produire. Et donc je crois qu'il faut vraiment profiter de ce temps pour devenir fécond, pour redoubler d'ingéniosité, de créativité envers notre prochain, pour devenir riche de l'autre et pour produire de l'amour. On ne soupçonne pas, je crois, suffisamment l'importance de l'autre dans nos vies, qui sont souvent stériles lorsqu'on reste seul, lorsqu'on s'isole. Moi j'entends souvent dire oui mais moi j'ai pas besoin, j'ai une vie suffisamment riche intérieurement. Non, et puis je crois que à juste titre d'ailleurs que l'écologie intégrale qui s'intéresse à l'humain, elle a compris à quel point il est primordial que nous posions sur l'autre un regard, mais un regard vrai. Et d'ailleurs toi-même Doumé, dans les émissions, quel que soit le thème que nous abordons, tu reviens, je crois, très souvent sur l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Et moi je compléterai en disant que l'autre en fait est tout aussi important, même pour parvenir à un équilibre intime, et que la reconnaissance à soi-même, elle ne peut s'accomplir que dans le face-à-face et que dans la complémentarité avec l'autre et surtout avec son aide. Pour revenir encore aux Écritures.
Merci Adeline. Malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission, mais on te donnera encore la parole pour d'autres émissions. Continue à nous partager ta réflexion sur... Ben oui, comme tu disais, sur ce thème qui est central, évidemment, du carême. Et puis, on a besoin de se mettre à l'écart pour être plus à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute de Dieu, et aussi plus disponible aux autres, hein, c'est sûr. Donc voilà, profitons bien alors de ce temps de carême qui est devant nous, hein, et pas uniquement pendant le carême, mais le carême est là pour nous mettre sur le chemin, un nouveau chemin. Donc avançons tous ensemble. Nous retrouverons donc la semaine prochaine pour notre émission « La vie avant tout ». Te remercions Adeline et dans la joie de t'écouter dans une prochaine émission.
Merci.
Merci Adeline, merci mon père. Excellent carême à vous tous et partageons notre joie qui vient de l'Esprit Saint. Amen.
Amen.
La vie avant tout, une chronique d'écologie intégrale en compagnie de Dominique Vachalde et de ses invités.